Bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, la conférence s'intitule « Chaman et monde invisible, la mystique chamanique au cœur de la forêt ». La conférence est animée par Céline Bouchard, philosophe. Bonne écoute.
Donc, peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler aussi de cette exposition qui se tient en ce moment au musée Pointe-à-Caillère. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de cette exposition? En fait, c'est une exposition sur le chamanisme, plus particulièrement le chamanisme de l'Amazonie. C'est une très belle exposition qui va se tenir pendant tout l'été. Et pour nous aussi, c'était une occasion de faire un écho à cette exposition et donc de vous présenter cette activité, plus particulièrement chaman et monde invisible. Est-ce que j'ai trop de lumière, Charles,
oui,
pour l'image? OK, parfait. Alors, on va s'ajuster pour pouvoir entrer dans ce thème du chaman et des mondes invisibles. Et je mentionnerai tout de suite d'entrée de jeu que on a les mondes invisibles pluriels. C'est intéressant de voir ça. Existe pour les peuples traditionnels. Toujours, il y a eu une compréhension de la vie qui n'est pas simplement une réalité tangible, manifestée, mais qu'il existe aussi une dimension invisible, une dimension intérieure. Et pour ces différents peuples des différentes traditions, parce qu'on va voir que le chaman ne se retrouve pas seulement en Amazonie, bien sûr. Il se retrouve en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, mais il se retrouve aussi en Sibérie. Il se retrouve au Tibet. On le retrouve chez les Celtes, hein? Mais il va porter différents noms. Mm-hmm. Mais c'est cette même figure centrale des sociétés, des cultures, je dirais, qui ont eu un contact plus intérieur et un contact réel avec la nature. Donc, le mot chaman, ça vient en fait de la Sibérie et ça veut dire connaissant, les très connaissants. Les chamans, en fait, étaient des scientifiques, étaient des prêtres, étaient des médecins, étaient des conseillers, des sages, avec un bagage de connaissances appliquées immense. Bien, en même temps, comme j'ai mentionné, ce contact intérieur avec la nature, où on va retrouver ces chamans, par exemple, chez les Celtes, ils vont s'appeler les druides. Mm-hmm. Et druide, ça veut dire exactement la même chose que chaman dans son étymologie. Hein, ça vient de... C'est druide qui vient de dru, qui veut dire connaissant. Donc, il est très connaissant. Mais cette connaissance n'est pas une connaissance strictement d'accumulation d'informations. Mm-hmm. C'est une connaissance intérieure, comme je l'ai mentionné, c'est une connaissance profonde et c'est une connaissance aussi qui est globale. Alors, donc là, je vais... Est-ce que moi, j'ai... Pour les changements de diapo, est-ce que je... J'ai... Bon, OK, alors c'est moi qui... OK, parfait, je vais ici. Donc, je voulais vous présenter tout de suite, en commençant, un texte d'un grand chaman de l'Amérique du Nord qui s'appelle Black Elk, pour justement voir avec vous comment ce n'est pas simple d'aborder la question du chamanisme aujourd'hui et de l'esprit chamanique. Alors, on va le voir ensemble, ce qu'il dit, Élan Noir, Black Elk. Alors, il écrit, « Il paraît qu'autrefois, nous étions civilisés et instruits. » C'est intéressant parce que souvent, quand on fait référence au chamanisme ou encore aux peuples autochtones, il y a eu une mentalité très étroite qui a mentionné que ces gens n'étaient pas cultivés, civilisés, nécessairement d'un point de vue des conquérants, parce qu'il n'y avait pas une compréhension de leur vision, de leur façon de voir, de leur système de pensée. Alors, il paraît qu'autrefois nous étions civilisés et instruits. Nous savions parler aux arbres, à toutes les plantes, aux peuples ailés, aux quadrupèdes, aux êtres rampants, aux mammifères et aux peuples des poissons. De plus, nous étions capables de communiquer entre nous. Nous formions un seul et même esprit. C'est ce que l'on appelle être civilisé ou instruit. Et puis, nous nous sommes éloignés de cette connaissance pour devenir ce que nous sommes. Et ici, on a affaire à un chaman, Black Elk est un chaman, qui est en train de nous parler de son peuple, mais nous parler de nous en tant que civilisation. Et quand je disais que c'était pas facile de comprendre le chamanisme, on peut le voir dans une culture qui s'est développée en rupture avec la nature. Aujourd'hui, on ne sait plus que la forêt pense. Mais la forêt pense. On ne sait plus que la terre est vivante, qu'elle est peuplée d'êtres vivants. Mais la terre est peuplée d'êtres vivants. On ne sait plus que la terre elle-même est un être vivant, qu'elle est notre mère. Nous avons, nous, la prétention dans notre vision que nous sommes très évolués, que nous sommes très civilisés et que l'on va, avec l'écologie, protéger la terre. Mais les Amérindiens savaient très bien que c'est la terre qui nous protège, c'est la terre qui nous porte. Et nous pouvons établir des relations harmonieuses avec elle ou disharmonieuses. Les peuples autochtones de la Sibérie, du Tibet, de l'Inde ancienne, de l'Amazonie, de la Polynésie, de l'Amérique du Nord, les Inuits au Grand Nord, dans le Grand Nord, tous ces peuples des civilisations anciennes savaient que la Terre est un être vivant et établissaient un dialogue avec elle. Ils apprenaient à parler le langage de tous les éléments que l'on rencontre sur la Terre. Donc pour nous, c'est comme tout un réapprentissage que l'on tente de faire, parce que l'on sait que l'on ne peut pas continuer de cette façon à tirer les ressources des sous-sols, de faire des coupes à blanc de nos forêts, couper les forêts amazoniennes. On le dit bien, hein, la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète. Et donc, le fait de détruire notre maison. Pour le chaman, la terre est sa maison. Elle est sa mère et elle est sa maison. Alors, ceci a bien sûr des conséquences sur nous. Donc, la pensée chamanique chez les peuples nomades, dans la jungle, dans les forêts, a eu du mal à se transmettre. Il y a eu une difficulté parce que c'est une tradition. Hein? Et tradition, Ça vient de tradere. Là, je vous parle dans notre langage, Annie, parce que c'est le mien. On communique comme ça. Tradere, hein, c'est tradition. Mm-hmm. Et ça veut dire transmission. Transmission. Ce sont des traditions qui sont orales. Ce sont des transmissions par la parole. Et c'est pour ça que la parole était si importante, que la parole était sacrée. Mais comme on a dénigré dans un monde, matérialiste, qui s'est coupé de la nature, qui s'est dit civilisé, il y a eu une rupture de la culture et de la nature. Donc, de la ville, on a essayé d'éliminer la nature. Et c'est pour ça, nous, aujourd'hui, on a nos villes de béton. Donc, si on trouve une plume sur le trottoir, ça nous rappelle que oui, il y a les oiseaux. Oui, il y a la nature, quand même toujours en ville. La nature, elle est toujours présente. Le ciel est toujours là, avec ses nuages, avec son soleil, avec ses orages. Et la nature, elle est très puissante. Mais parce qu'on a dévalorisé cette pensée des civilisations, des êtres qui étaient plus près des lois de la nature, ces traditions se sont perdues au sein même des sociétés où l'on retrouve les chamans. Alors, il y a eu une perte de la connaissance. Et c'est pour ça qu'on a ce texte de Black Elk. Avant, nous savions communiquer avec les êtres vivants sur la Terre. Maintenant, nous ne le savons plus. Les chamans sont dans les réserves. Les enfants sont désorientés face à des traditions dont il existe, dont il subsiste quelques éléments, et une nouvelle culture qui les envahit, qui, elle, est très matérialiste, oui, coupée de l'invisible, coupée de l'essentiel. En fait, ce ne sont pas seulement que les peuples autochtones qui souffrent aujourd'hui, mais l'humanité tout entière, parce que on s'est coupé d'une dimension de nous. Et donc, on a aussi eu un regard sur les autochtones, comme sur les chamans, comme étant quelque chose d'irrationnel, comme étant étrange, à la fois fascinant, mais étrange. Donc, du système de santé, par exemple, c'est un des attributs des chamans, d'apporter la santé. Un des attributs, c'est « ce n'est pas le seul ». Mais parce qu'ils connaissent les lois d'harmonie, ils peuvent réinstaurer cette harmonie dans le corps humain. Alors, mais comme une médecine basée sur une approche analytique, rationnelle, qui découpe les choses pour les comprendre, s'est développée, alors on a rejeté, discrédité la médecine chamanique, la médecine des chamans, des druides, par exemple, je vous dirais un chaman tibétain qui était le médecin du Tibet, un médecin du Dalai Lama au Tibet, a écrit un livre qui s'appelle Le Palais des Arcs-en-Ciel, si un jour vous avez l'occasion de lire ça. Et c'est un chaman. Mais dans un autre langage, vous voulez, il ne porte pas le nom de chaman, mais c'est le même principe qu'il incarne. Et aujourd'hui, il dit que la médecine traditionnelle tibétaine, elle est en danger. Il ne reste que 3 livres à travers tout le Tibet qui ont rapporté tous les enseignements qui ont été développés pendant des millénaires. Alors, dans quelques civilisations, dans quelques sociétés, on garde encore des traces, quelques traces écrites, de tout ce savoir, de toute cette connaissance, mais dans beaucoup de situations, de cas, de peuples, de communautés, beaucoup de connaissances se sont perdues. Alors, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'il nous faudrait essayer de retrouver en continuant de voir qui sont les chamans. Qui sont les chamans? Hein? Donc, on a une mystique chamanique qui s'est développée au cœur de la forêt. Quand je dis au cœur de la forêt, on pourrait dire au cœur de la nature. Ça peut être la nature des plaines, hein, avec les bisons, hein, l'esprit du bison, par exemple, ou encore, ça peut être la nature des forêts celtes, des forêts de carnutes, hein, où on avait tout un savoir sur les propriétés des arbres et où on développait un calendrier des arbres rattachés à chaque mois. Et qui nous parle, c'est toute une astrologie en fait qui était développée pour rencontrer les différentes caractéristiques de l'être humain, parce que l'être humain quelque part il est comme un arbre, il vit dans la nature, il n'est pas coupé de la nature, et c'est pour ça que la rencontre avec la forêt, avec la nature va enseigner à l'apprenti chaman, à l'apprenti connaissant. En fait, la formation du chaman va se faire dans la forêt. On ne naît pas chaman dans les traditions chamaniques. C'est un état d'être, c'est un état de conscience, c'est un état d'être. C'est un état d'être que l'on développe et que l'on incarne petit à petit. Alors d'abord, il faut dire que dès l'enfance, l'enfant n'est pas coupé de la nature. Il vit dans les bois, il vit près de la mer, si on parle des traditions Aïda. Il vit dans la jungle, hein, avec toute la complexité que peut représenter la forêt. La forêt où, on n'a pas une cartographie, par exemple, où quand on est dans ce lieu, on nous dit tourner à droite pour s'orienter, ou le nom de la rue, ou feu rouge, on s'arrête, stop. Non. Les repères sont complètement différents. Alors donc, je dois apprendre à me familiariser avec de nouveaux repères. Et c'est un monde très riche, très complexe, où les éléments de la terre, hein, avec la pierre, avec les rochers, hein, interagissent avec les éléments de l'eau, avec les ruisseaux, avec les rivières, avec la puissance de la mer, avec les lacs calmes, non? Avec les éléments du vent. Alors le vent qui est une brise, ou encore les fortes bourrasques qu'on peut rencontrer, les tempêtes, avec la pluie, les moments de soleil, les feux. Les feux qui se déclarent dans la forêt avec l'éclair, par exemple, qui frappe l'arbre. Alors, et puis, donc, c'est tout ce monde des végétaux. Alors, nous, on dit, bon, mais il existe l'arbre, les arbres, peut-être. Alors, si on a une connaissance de la forêt, si on va se promener en forêt, parce que si on veut, par exemple, se ressourcer après notre semaine de travail qui se passe en ville, souvent, on va en nature, on va en forêt. Alors, si on a apprivoisé un peu la forêt, on a vécu avec elle, alors on sait qu'il y a une multitude d'arbres. En connaissons-nous tous les noms aujourd'hui de nos forêts? Les forêts du Québec, les forêts... Très peu, en fait. On a beaucoup perdu. On connaît deux. En ville, on a réduit le nombre de variétés d'arbres qui existent. Alors, on n'a plus de référence par rapport à ça. l'arbre, les petits arbustes, la mousson, tous les végétaux d'hiver qu'on va retrouver dans la forêt. Même chose au niveau du sol, des pierres, du roc. Hein? Quelle est la qualité ici de ce roc? Est-ce un granit? Est-ce une pierre ponce? Quelle est sa particularité? Les autochtones connaissaient les particularités des pierres, connaissaient les particularités des végétaux, connaissaient les propriétés aussi des arbres. Et donc la forêt, en même temps, la forêt, elle est peuplée d'animaux. Elle est peuplée, oui, d'oiseaux. Et elle est peuplée de tous les animaux du règne animal. C'est tout un règne. On a le règne minéral, on a le règne végétal, on a tout le règne animal. De l'insecte, de la chenille, jusqu'à l'orignal, jusqu'au jaguar, jusqu'à tous ces animaux qui peuplent la jungle, qui peuplent la forêt. Donc aussi, est-ce qu'on peut parler le langage du poisson? Est-ce qu'on peut parler le langage de notre frère, l'écureuil, le chevreuil? Ça, c'est toute une langue qui s'est développée. Alors, l'enfant amérindien, hein, l'enfant des autochtones chamans de Polynésie ou d'Amazonie, vivait dans ce contexte. Et il grandissait au sein de la communauté et était enseigné de toute cette réalité de la nature. Et peut-être que l'un d'entre eux, tout le monde n'était pas chaman dans la communauté, mais peut-être que l'un d'entre eux présentait des dispositions particulières, avait une curiosité aussi qui lui était propre. Et donc, il rentrait dans une formation chamanique ou druidique ou... oui, c'est les noms qu'on peut donner, une formation de sagesse pour avoir cette connaissance. Hein, chaman, c'est ce que ça veut dire, les très connaissants. Donc, et cette formation, elle durait environ 20 ans. 20 ans. Pour des hommes et des femmes qui devenaient par la suite chamans. Donc, voyez tout le bagage que ces consciences portaient et le temps que ça pouvait prendre à devenir chaman. Et cette formation, elle n'était pas que transmission d'informations, comme dans nos universités actuelles, hein, où on nous informe, on nous transmet un savoir, un peu comme, c'est comme des fois on nous emplit le crâne, ou, en tout cas c'est sûr, on reçoit beaucoup d'informations, mais l'éducation chamanique, ce n'était pas ça. C'était une voie de transformation de soi pour rencontrer toutes les possibilités de l'être. Et ceci passait par la forêt. Ceci passait par la forêt qui est un lieu de mystère. Parce que c'est complexe. On se rappelle, nous, quand on marche dans la forêt, on entend des bruits, on devient aux aguets. Qu'est-ce que c'est? On est... on y a toutes sortes de références nouvelles qui nous arrivent et qu'on essaie de comprendre. Quel est ce chant que j'entends? Quel est ce cri que j'entends? Quel est cet ululement? De pouvoir se repérer à travers ce lieu qu'est la forêt, qui est un lieu du mystère. La forêt est un lieu mystérieux. La forêt, elle va devenir aussi un lieu d'enchantement. Alors c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de contes et légendes, par exemple, qui vont nous parler de forêts enchantées, où les animaux vont se mettre à parler. On a ça dans presque toutes les traditions. Ce sont les contes et légendes qui viennent nous rappeler des connaissances intérieures, des connaissances très lointaines, très profondes, très anciennes. Des connaissances qui nous viennent de l'invisible. Parce que la situation est là, les mondes invisibles. Si on ne peut pas les voir, comment on va faire pour les rencontrer? Comment on va faire pour les connaître? Alors, ils vont se manifester, ces mondes invisibles, au travers différentes réalités de la nature. Ils vont se manifester au travers les arbres. Ils vont se manifester au travers les animaux. Ils vont se manifester au travers les forces des éléments. Parce qu'ils ont besoin d'un support concret pour apparaître. Et qu'est-ce que ça va demander pour les voir? Ça va demander une vision. Le chaman est un visionnaire. Ça va demander une vision qui vient du cœur. C'est pas la vue physique, c'est une vue intérieure, c'est la vision du cœur. Hein, on a des textes très près de nous qui nous disent l'essentiel est invisible pour les yeux. On voit bien avec son cœur. Donc, c'est cette formation que va recevoir le chaman. C'est une formation d'ouverture du cœur, de capacité de pouvoir éveiller cette vue. Et donc, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà des formes, mais de voir à travers les formes aussi, par le symbole, le langage symbolique et le langage du chaman. Le chaman n'est pas en train de penser que le bison est un dieu. Et l'Amérindien non plus, ni non plus le chaman de l'Amazonie ne pense pas que le jaguar est un dieu. Mais le jaguar représente le symbole des forces de cette dimension spirituelle qui s'exprime à travers lui. C'est un langage très riche, très riche, très, très, très complexe, et qui s'apprend dans la forêt. Donc, quand je dis dans la forêt, je dirais aussi dans la nature tout entière, avec ses différentes manifestations. C'est une forêt enchantée, mais c'est une forêt aussi de défis. C'est une forêt de dangers. C'est si j'en ne connais pas toutes ces forces en présence que je suis en train de rencontrer. Alors, comment je vais faire pour rencontrer ces forces et pour pouvoir développer vraiment cette vision intérieure? Alors, la formation du chaman, elle va passer par, comme je mentionnais, une éducation, une transmission des anciens, au début de la formation, transmission des anciens, toute la connaissance de la communauté qui va être transmise. Et toujours cette connaissance est là pour loi de l'harmonie. L'harmonie est là pour loi, la paix. La paix. Parce que le monde de l'esprit est un monde d'harmonie. Le monde de l'esprit est un monde de paix. Quelquefois, pour que l'humain puisse atteindre cette harmonie, que l'humain puisse atteindre cette paix, il va devoir se confronter à ce qui n'est pas harmonieux en lui-même. Donc, elle est là la formation principale. C'est pour ça, par exemple, qu'avec Nouvelle Acropole, nous sommes à l'aise de parler du chamanisme, même si nous ne sommes pas des chamans. Comme j'ai dit, il existe très peu de chamans aujourd'hui, parce qu'on les a ostracisés, je peux dire, on les a mis de côté, et la tradition s'est perdue. Mais ce qui est possible, c'est de retrouver le chemin qui mène à la connaissance. un chemin qui mène à la connaissance. Et c'était ça que vivaient aussi les civilisations, dans les civilisations anciennes, vivaient cette voie qui conduit à la sagesse, qui conduit à la paix. Et pour ça, bon, ben, dans la forêt, dans la nuit de la forêt, envahis des cris du jaguar. Moi, je me suis retrouvée à un moment donné en Amazonie, et puis il y avait là des singes hurleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des singes hurleurs.
Oui.
Ce sont des... en fait, c'était au Guatemala. Ce sont des singes vraiment intelligents, vraiment brillants. Parce que le singe, il n'est pas un être très fort physiquement, vous voyez. Et il côtoie les jaguars. Il côtoie les panthères, les jaguars et tout ça. Alors, il a développé un système de défense très, très intéressant, très intelligent. Il se met à crier comme un jaguar. Il a appris à imiter le cri de son adversaire. Et donc, comme ça, il le fait fuir et lui peut protéger son clan, sa famille, lui-même, sa tribu. Alors, c'est vraiment... La nature est intelligente. Il y a toutes sortes... Il y a une manifestation de l'intelligence dans le règne animal. C'est fabuleux. Ces singes hurleurs. Pourquoi je vous parlais de ça? Alors, oui, donc il y a les dangers. Il y a les dangers dans la forêt, dans la jungle, qui sont là. Si on est dans la nuit, il y a tous ces cris, les loups qui hurlent ici. Hein? Alors, donc, en fait, le chaman devait faire face. La première chose qu'il devait vaincre dans sa formation, c'est la peur de la mort. Peur de la mort, peur de la maladie et aussi peur de la faim. Vivre, c'est un combat pour pouvoir faire face à ces peurs, hein, de mourir, peur d'être malade, peur de n'avoir rien pour subsister. Donc, dans la forêt, il va vivre les épreuves. Et qui sont la vie elle-même de la forêt. Il va falloir apprendre à parler avec les loups pour établir une relation avec mon frère le loup. Et aujourd'hui, dans notre réalité contemporaine, c'est une femme, une pianiste en fait, qui vit aux États-Unis. Et qui vit dans les abords d'une forêt où il y avait des loups. Et elle, pianiste, elle jouait du piano. Et à un moment donné, elle a vu qu'il y avait un loup qui venait et qui écoutait la musique. Alors, elle a commencé comme ça à jouer pour le loup. Et il s'est établi une relation et elle a apprivoisé cet animal. C'est très intéressant parce que c'est des choses qui peuvent exister. Ça, c'est dans notre réalité contemporaine. C'est des choses qui peuvent exister. Des relations comme ça qui peuvent naître entre les règnes et entre des règnes qui sont supposés être des ennemis. Bon, je ne vous conseille pas d'essayer, moi que vous soyez un très grand musicien, mais c'est pour dire que oui, on va apprivoiser les peurs, on va apprivoiser ce qui peut représenter un danger, une menace, une plante par exemple qui produit un poison mortel ou encore un serpent qui pique de sa blessure. Qui amène la fièvre et bon, tout ce qui s'ensuit. Mais alors, comment guérir de cette morsure, de cette blessure? Le chaman doit apprendre à établir une relation avec les plantes, avec les éléments et il va être enseigné pour pouvoir trouver quel est le remède qui convient dans telle circonstance, dans telle situation. Donc la forêt est un lieu d'initiation. Mm-hmm. La nature est un lieu d'initiation. Donc s'initier, c'est apprendre, c'est commencer, c'est pour vraiment intégrer la connaissance. Pas seulement parce qu'on peut lire beaucoup de livres sur les sujets, on a beaucoup, encore une fois, de savoir dans la tête, mais ce n'est pas nécessairement une réalité, un savoir vivant, pratique, intégré, qui nous permet de vivre avec les éléments. Aujourd'hui, on ne sait plus tellement bien vivre avec les éléments. Donc, la formation de base. Alors, et là, le chaman, il va comprendre que, oui, la forêt parle. La forêt est un être. Et que tout ce qui y existe est vivant. Tout a une âme. Tout est vivant. Tout a une âme. Et nous sommes tous en interconnexion. Et venons de la même source. Dans toutes les traditions, tous les peuples traditionnels, il y a toujours cette idée d'une unité, d'une unité primordiale. Non, c'est le grand esprit, c'est le grand Manitou, c'est l'innommable, que ce soit dans la tradition du bouddhisme, de l'Inde, au Moyen Âge, avec les Celtes et toutes ces traditions aussi des alchimistes. Donc, il y avait cette connaissance que dans la nature, tout est un. Mm-hmm. Tout est interrelié et tout est un. Alors, si je peux me rapprocher de cette unité, mais je peux alors parler le langage de tout ce qui se trouve dans la multiplicité de la manifestation. Les choses ne sont pas découpées. Tout est lié. Tout est relié. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que c'est qu'on a une vision qui est en train d'apparaître au niveau de la science fondamentale. Par exemple, quand on parle de physique quantique, c'est des termes qu'on est en train de voir. Et cette vision, cette nouvelle approche de la vie, de la compréhension de la nature est en train de nous dire les choses ne sont pas mécaniques. Tout est vivant et tout est interrelié. Là, c'est nos scientifiques. Nous, comme occidentaux, on se fie beaucoup à la référence de la science. Quand c'est légitimé scientifiquement, c'est vrai. Mm-hmm. Sinon, c'est pas vrai. Mm-hmm. Mais là, en allant tellement loin dans cette science, qui découpe tout pour comprendre, on arrive à une vision de la physique quantique qui s'approche justement, qui est en lien avec cette vision, on pourrait dire, globale qu'ont les peuples traditionnels, qu'ont les chamans, une vision, on va dire, on va utiliser des mots comme holistique, par exemple, une vision globale. De la vie, où tout est en interconnexion. Alors le papillon qui fait sa route jusqu'en Amérique, qui part d'Amérique du Nord et qui s'en va jusqu'en Amérique du Sud, le tout petit être, tout petit, qui fait ce tellement grand voyage, est en train d'avoir une incidence sur toute la planète, sont en train de nous dire les scientifiques et les chamans et les autochtones des différentes civilisations. Savait ça depuis longtemps. Vivait avec ça. Mais c'était pas seulement un savoir. Pour nous, ça devient un savoir. C'est intellectuel. Oui, la terre-mère, oui, c'est comme... D'accord, c'est poétique, c'est beau, mais on l'entend, oui, il faut établir une relation plus harmonieuse, mais ce n'est pas quelque chose qui est vivant à l'intérieur de notre culture comme compréhension du monde. Non, sinon, on aurait d'autres valeurs que le système de valeurs que l'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Non? Où tout repose, par exemple, sur le marchandage et l'argent. On aurait d'autres valeurs qui est le respect de l'être humain fondamentalement. Et c'est ce qui caractérise le chaman de l'Amazonie, avec ici son, que l'on voit représenté avec le souffle de l'esprit. Ces êtres qui ont parcouru toute cette éducation dans la jungle, dans la forêt, qui ont reçu la transmission des anciens et qui vont s'aventurer à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que la connaissance, doit, pour être vivante, il faut qu'elle soit vécue. Ça doit être une expérience. On ne peut pas apprendre, devenir chaman en 5 jours, appliquer la recette. Devenir chaman en 2 fins de semaine, ça ne marche pas. Sinon, je pense qu'on le saurait tous. Hein? 2 fins de semaine, c'est pas si long. Si ça existait, la recette, je pense qu'on l'aurait tous fait. Hein? On l'aurait tous appliqué. Mais il n'y a pas de recette. Le chaman, l'état chamanique, l'esprit chamanique est un état d'être. C'est un état d'être qui se construit. C'est un état d'être dont on est instruit pour recevoir une connaissance. Donc c'est une grande humilité de dire « je ne sais pas ». Et c'est une ouverture. Donc c'est ça qui caractérise aussi cet apprentissage, cet apprenti qui va commencer à marcher sur un sentier de connaissance de soi. La réalité est une. Toutes les traditions de sagesse les expriment au travers d'une multiplicité de formes. Mm-hmm. Mais toutes, elles conduisent à la même unité. Mm-hmm. Il n'y a pas une culture, une tradition meilleure qu'une autre. Elles sont toutes des voies de cette sagesse une. Et c'est pour ça que, par exemple, la plume de la sagesse, ben, on la retrouve en Polynésie, en Amazonie, en Amérique du Nord, en Égypte ancienne. On la retrouve partout pour symboliser l'esprit. Parce qu'il est question de vol, il est question d'envol, envol de l'âme. C'est, toutes ces traditions de sagesse nous ont parlé de cette théorie, hein, cette réalité de l'âme qui est prisonnière dans une cage. Qui est en prise, et la cage, c'est nous-mêmes. Hein, c'est ce qu'on va appeler la personnalité, par exemple, dans notre langage contemporain. Mm-hmm. Hein? Les chamans, hein, et tous les peuples autochtones, et ça dans toutes les sagesses, on parle de ça aussi dans les cours de philosophie, vont nous parler de la réalité qui comporte 7 plans de conscience différents. 7 niveaux de conscience différents. Mm-hmm. 7 niveaux de conscience qui va s'exprimer par une dimension, je vais la représenter par un triangle, hein, parce que c'est aussi une structure, une forme naturelle que l'on retrouve dans la nature, comme par exemple la montagne, hein, et que beaucoup de peuples autochtones ont légué aussi des architectures qui vont avoir cette forme pyramidale, justement pour nous signaler l'unité derrière toute chose. Donc, cette forme, disons, ternaire, qui est un symbole pour représenter l'esprit. Et on va avoir la terre qui va être représentée par un carré, le carré des 4 directions. Et on va toujours avoir, dans les traditions chamaniques, ça c'est... ça va être dans la 2e conférence qu'on va traiter davantage des rites chamaniques en relation, par exemple, avec la qualification de l'espace ici, donc l'esprit, on peut l'associer à la dimension céleste, à la voûte céleste. À la voûte céleste, le ciel. Et puis, ici, c'est la mère Terre, le monde visible, qui est la Terre et qui correspond chez l'être humain. Parce que là, je suis en train de parler d'un petit microcosme qui correspond à notre aspect visible, qui est la personnalité. Et c'est pas séparé entre les deux, mais c'est relié. Nous, notre problème, c'est que on a éliminé l'esprit, qui est en fait l'être. Quand je parle d'état d'être, c'est ça. L'être, c'est ici. Ça, c'est l'être. Ça, c'est le paraître. Je parais. On apparaît tous, mais nous ne sommes pas que parution. On a une intériorité, on a une dimension invisible. C'est notre réalité d'être. Je ne suis pas qu'est-ce que je parais. Je ne veux pas être aimée, considérée, respectée pour mon apparence. Je veux être aimée, respectée en tant qu'être. Être humain. Mais j'ai besoin d'une bonne apparition parce que sinon ça va mal pour s'entretenir. Ah, c'est vrai. Ils flottent tous dans l'espace. Donc c'est mieux de bien atterrir puis d'être bien branché à notre terre, la mer. Donc ces sept plans de conscience correspondent ici à quatre. Le carré, ce sont, comme j'ai dit, les quatre points cardinaux, les quatre saisons. On a des structures fondamentales dans la nature qui procèdent avec le nombre 4. Et ici, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça se comprend ce que je... Ça va? Oui? OK. Et puis, l'esprit qui se caractérise par le 3, la Trinité. Qui est un symbole, qui est une expression, en fait, de l'unité primordiale que l'on ne peut atteindre, mais que l'on peut représenter par, justement, cette dimension de la Trinité. Donc, ceci correspond aux sept plans de conscience, aux sept plans qui existent dans le microcosme. L'être humain est un petit microcosme. À l'image du macrocosme, à l'image de l'univers, à l'image de la nature. Et que faisait le chaman? Il établissait des liens harmonieux entre le monde, entre son monde et le monde du macrocosme, le microcosme et le macrocosme. Voilà pourquoi il pouvait parler, par exemple, aux étoiles, pouvait parler aux nuages, pouvait parler au soleil, et que tout était frère, tout est ses frères, mon frère la montagne, mon frère la lune, mon frère les étoiles, nous sommes de même nature, et c'est ce que nous dit Hubert Reeves, nous sommes poussière d'étoiles, nous venons du ciel, nous avons la même origine. Tout vient de l'unité, qui est un mystère. Ouf, qui a créé l'univers? Oh, on ne sait pas. Les chamans non plus. Ils ne savent pas. Ils sont sages pour nous, ces anciens, qui ont légué des paroles de sagesse, qui ont légué des traditions. Mais à leur niveau, ils sont toujours en train d'apprendre. Parce que c'est la voie d'évolution. C'est la voie d'évolution. Alors, le chaman, il va s'investir. Il va s'investir des esprits de la nature pour pouvoir rencontrer les forces qui sont exprimées dans cette nature. Alors, on va avoir l'ours, grand-père l'ours. Notre grand-père, l'ours, qui apporte ses paroles de sagesse. Alors, comment va... Est-ce que c'est l'ours en lui-même qui est sage? Non. C'est que l'ours a des attributs qui permet qu'il puisse symboliser la sagesse. C'est sa capacité, par exemple, à être, à rester calme. Sa force, sa puissance aussi. Sa capacité de pouvoir dormir et rêver. Vont en faire un être qui peut voyager dans les plans, invisible, dans le monde du ciel, dans le monde céleste. Et c'est pour ça qu'il va être grand-père sage, hein, qui instruit la tribu et qui peut instruire, qui va instruire en fait le chaman qui à son tour va instruire la tribu. Alors les différents éléments ici avec ce cougar, le lynx, donc qui sont les symboles à travers dont va se vêtir le chaman pour pouvoir incarner ses propriétés. Parce qu'on a dit sa formation incluait de vaincre les peurs, vaincre ce qui peut constituer la peur de la mort, aussi une menace, apprivoiser, développer ce langage, mais développer aussi des vertus, développer des qualités, des vertus on utilise ce mot, je sais que ce n'est pas un mot qui est très aimé aujourd'hui, mais peut-être en médecine, on le comprend mieux, on dit des vertus curatives. Mais la cure qu'apporte le chaman, elle n'est surtout pas seulement physique, elle est spirituelle, elle est psychologique et elle est physique. Elle existe dans toutes les dimensions de l'être humain. Donc, il va s'approprier et se vêtir de ses vertus qui sont le courage, qui sont la force, qui sont la patience, toutes les vertus qui nous permettent d'être humain réellement. Ici, on a cette très belle image du chaman. Donc, il va ici avec un geste de purification. Parce que donc, pour pouvoir rentrer en contact avec ce monde de l'invisible, il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur d'enfant connaissant. Je ne dirais pas seulement pur, parce que des fois, on dit oui, un cœur pur comme un enfant. Un enfant, c'est peut-être pas si pur que ça. Mais quand même, il y a un émerveillement chez l'enfant, il y a une ouverture, tu sais, parce que des enfants, des fois, dans la garderie, c'est pas si pur que ça. Ils peuvent se taper les uns sur les autres. Donc, c'est l'aspect sauvage, c'est l'aspect déchaîné, c'est l'aspect instinctif, comme ceci se manifeste aussi à l'âge adulte, si ceci n'a pas été apprivoisé, si ceci n'a pas été calmé, si ceci n'a pas été harmonisé. Ces forces sauvages, comme la jungle sauvage, ne sont pas mauvaises. Elles sont à cultiver, elles sont à jardiner, elles sont parce que les Amérindiens ont construit des cités harmonieuses, quel que ce soit dans le nomadisme ou que ce soit dans le développement de cités fortement organisé comme ça peut exister à l'heure actuelle, justement dans la jungle de Guatemala. Il y a, on nous dit que c'est là où se trouve la plus grande cité du monde, où l'on retrouve les pyramides les plus hautes que la grande pyramide de Khéops en Égypte. Mais elle est complètement envahie par la jungle. Mais à l'époque des Mayas qui vivaient là, et des chamans, c'était un jardin, c'était une cité. La jungle était un jardin, c'était apprivoisé, dans le sens où culture n'a pas besoin d'être en rupture avec la nature. Ça peut être connecté, ça peut être harmonisé. Et notre nature, Hein? Le fait de se cultiver ne nous demande pas de nous couper de notre nature, c'est-à-dire de nos instincts. Tout ça est bon. Tout ce qu'on est bon, vont nous dire les sages, vont nous dire les anciens, vont nous dire les chamans. Tout ce que l'on a est bon. Il faut pouvoir l'harmoniser, il faut pouvoir le purifier, il faut pouvoir le qualifier pour en faire sortir les fleurs, le meilleur de nous-mêmes, et non pas l'aspect le plus... l'aspect égoïste, déchaîné. Ça, c'est si on se coupe de ce qui a la vision. Ce qui a la vision, c'est pas le paraître, c'est l'être. La vision vient de l'intérieur. La vision vient de l'être chez nous. Elle ne vient pas de l'extérieur. Alors, et bon, ben, c'est comme un jardin. Alors, on travaille notre jardin, c'est le temps en ce moment. On est tous en train de faire du jardinage, peut-être. Mais on sait que, bon, ben, j'enlève les mauvaises herbes une fois, ben, c'est pas fini. J'avais déraciné une peur. Voilà, ça y est, ça revient. J'avais déraciné un comportement. Ouais, tous les travers, c'est quoi les à déraciner? Qu'est-ce qui est à déraciner? Bon, ben, ce sont. Ce sont nos égoïsmes, ce sont nos aveuglements, c'est ce qui est le superficiel chez nous. C'est ça qui est à enlever, c'est ça qui est à déraciner. Ici, très belle représentation d'un chaman inuit du Grand Nord. Et on va le voir ici, son costume, sa tenue est une tenue cérémonielle. Le chaman n'est pas vêtu de n'importe quelle façon. Tout ce qu'il porte a un sens, a un symbole et porteur de vie, je dirais. C'est pas juste... c'est parce que c'est vivant. La tenue est une réalité de vie. Et... les mains, par exemple, qui sont représentées, on va les voir, vous avez peut-être vu ça dans certains livres, mais des fois sur le visage, des mains qui sont comme tatouées sur le visage ou sur le corps, ce sont des mains de protection. Dans les peuples berbères, par exemple, Sarah, toi qui es une fille du désert, tu peux nous parler de ça. Mais bon, alors, bien sûr, je suis en train de parler de la main de Fatima, mais dans le Tibet aussi, c'est la même chose. On va avoir la main avec l'œil à l'intérieur. Hein, c'est la qui est symbole de la connaissance juste. Symbole de la sagesse et aussi protection contre les esprits malins, les esprits maléfiques. Alors, c'est quoi les esprits malins? C'est quoi les esprits maléfiques? Alors, c'est tout ce qui est disharmonieux. Alors, chez les Inuits, par exemple, il y a une très belle histoire et je vais terminer avec ça avant la pause. Après, on va aller à la pause et je vais revenir avec d'autres éléments. Mais chez les Inuits, le chaman s'appelle Ilik, E-L-I-K. Bon, c'est juste pour vous dire, vous voyez, c'est dans différentes traditions, on va avoir différents noms pour dire chaman. Et ça veut dire celui qui a des yeux, celui qui a des yeux. Celui qui voit, le voyant, celui qui est capable d'aller voir au-delà des formes. Et la fonction du chaman, c'est de pouvoir s'assurer de l'harmonie, de la communauté dans sa relation à la nature, de l'harmonie de la des êtres de la communauté entre eux. Hein, et de l'harmonie en chacun d'eux. Et c'est pour ça, par exemple, que s'il y a une maladie, il va aller voir où il y a disharmonie, où il y a conflit. Et donc, il va faire un voyage. C'est le voyage de l'âme. Pour nous, ça paraît un peu... Oh, c'est mystérieux, c'est étrange. Mais il va accéder à d'autres plans de conscience. et il va trouver où se trouve le déséquilibre, où se trouve le conflit, pour ensuite ramener le remède pour apporter la résolution à la maladie, par exemple. S'il y a un conflit dans la communauté, quelque chose se passe, c'est un grand conflit, alors le chaman va faire un voyage. Cette fois-ci, ça va être dans une autre réalité invisible. Chez les Inuits, c'est ceci. Il va descendre au fond des mers. Et il va rencontrer la déesse mère. Et il va coiffer ses cheveux. Parce que le désordre dans la communauté, les conflits dans la communauté, ont décoiffé la déesse de la mère. Alors il va coiffer ses cheveux pour ramener l'ordre, pour ramener le calme, pour ramener la paix. Et il va laver son visage. Il va laver son visage de toutes les erreurs, de toutes les conflits, les égoïsmes, les tensions, pour amener qu'elle soit purifiée de toutes les fautes qui sont commises. Et ensuite, il va revenir dans la communauté. Pendant qu'il fait ce voyage intérieur, ce n'est pas une histoire que je raconte, c'est quelque chose qui est réel. Pendant qu'il fait ce voyage intérieur, toute la communauté est réunie dans l'igloo, par exemple, et puis on fait le tambour pour accompagner le chaman dans son voyage intérieur. Alors, voyez, on est en présence d'un monde, magnifique que l'on ne comprend plus beaucoup aujourd'hui, mais qui est réel, qui se perd, mais qui a existé, qui, dans certaines mesures, continue d'exister. J'avais un ami qui a travaillé dans le Grand Nord avec les Inuits, justement, il y a quelques années. Et il travaillait avec une équipe de médecins là-bas. Alors, il était dans une équipe avec eux, et puis dans le village, il y avait eu un meurtre. Il y a beaucoup de détresse dans les communautés autochtones aujourd'hui, on le sait. Et bon, la personne, elle a été jugée par les lois canadiennes, elle a été en prison comme n'importe qui commettrait un homicide. Donc il a purgé sa peine, et ensuite il est revenu dans la communauté. Et là, c'était dans cette communauté où il avait commis l'homicide. Alors il est revenu, il est descendu de l'avion, et là, toute la communauté était là pour l'accueillir, et ils l'ont tous applaudi. Bienvenue dans la communauté. Tu as payé pour ta peine. Bienvenue parmi nous, à nouveau. Vous voyez, je raconte cette histoire pour peut-être donner une petite idée des valeurs qui existent dans ces communautés. Bien sûr, aujourd'hui, elles sont toutes imprégnées de nos systèmes, punitifs, ça qui existe, et quelqu'un qui a mal agi, après c'est difficile sa réinsertion, et c'est comme ça. Bon. Mais il peut y avoir une autre façon de voir les choses. Alors, on va continuer pour quelques minutes. Le temps passe trop vite en votre compagnie. Nous, les philosophes, on est chercheurs de vérité. On n'a pas la vérité. On est des amoureux de la sagesse. On n'est pas des sages. Nous ne sommes pas des chamans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chemin. Il y a une voie où on peut se reconnecter à nous-mêmes pour pouvoir se reconnecter au monde dans lequel nous vivons. Pouvoir établir des relations plus harmonieuses Alors, et tous les peuples nous parlent de cette voix-là, qui est une voix de connaissance, qui n'est pas intellectuelle, qui demande d'être en contact avec soi-même. Et c'est ce qu'on fait justement dans les ateliers de philosophie. C'est pas les conférences sur l'histoire des sagesses du monde, mais comment ça peut m'aider à mieux me rencontrer dans la vie? Comment ça peut m'aider à éliminer des choses avec lesquelles je bataille pour être plus tranquille avec moi-même et pour pouvoir être plus tranquille avec les autres? Donc, c'est vraiment très enrichissant. Toutes les civilisations à travers le monde ont beaucoup à nous apprendre. C'est notre mémoire, c'est notre bagage. Hein, nous ne sommes pas nostalgiques du passé, bien qu'on voit qu'il y a eu des ruptures, comme je le disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. La nature est toujours présente. Nous, l'être humain, avec notre conscience, nous pouvons toujours continuer de cheminer vers nous-mêmes, vers notre cœur. Et c'est certain que ça passe à travers l'habileté de rentrer à l'intérieur de soi et de voir, non mais c'est où là, moi, mon désordre, là, tu vois, pour que je puisse m'épanouir davantage dans la vie. C'est cette purification, non, qui commence par soi-même, et au fur et à mesure qu'on la fait en soi, ben, on peut l'amener autour de soi. Et ce sont les rites que vont faire les chamans et qui vont leur permettre d'être ceux que l'on nomme les visionnaires, ceux qui ont des yeux, ceux qui sont capables de voir et qui peuvent donc capter. C'est une fonction de l'intelligence, non? Qui est une dimension qui appartient à l'esprit. C'est intéressant que les peuples anciens font une distinction entre la raison et l'intelligence. Des attributs comme l'intelligence procèdent davantage, et sont des outils qui existent dans la nature. La forêt pense, et l'être humain aussi pense. L'intelligence, c'est un outil qui existe aussi, bien sûr, à l'intérieur de nous. Mais au lieu de procéder par division, par dissection des choses pour les comprendre, non, l'intelligence procède en établissant des liens, en établissant des relations. Et c'est cette capacité d'établir des liens qui peut nous amener à voir au-delà des apparences. Hein, cette quête de vision dont nous parlent les chamans, qui est en relation aussi avec cette capacité que l'on a de développer l'imagination. Ben aujourd'hui, en psychologie, on parle aussi de ça, hein, avec la différence entre cerveau gauche, cerveau droit. Nous, depuis, je dirais, les derniers siècles, on s'est beaucoup développé de façon rationnelle. Je pense à l'humanité tout entière. On a développé notre cerveau droit beaucoup, très logique, rationnel et tout ça. Mais ça a créé un déséquilibre parce qu'on a oublié toute cette fonction que nous avons, cette capacité que nous avons d'intuition, de vision avec le cœur, cette capacité de capter l'essentiel. Donc aujourd'hui, dans nos sociétés, de quoi manque-t-on? On manque de vision, on manque de visionnaire, on manque de sagesse. On a énormément de moyens, il y a beaucoup de potentiel chez l'ensemble de tout ce que nous sommes. Mais il nous faut pouvoir retrouver les outils qui existent à l'intérieur de nous. C'est pas non plus développer seulement le cerveau, je parle en termes d'hémisphère, le cerveau droit seulement, la vision, parce que au détriment de la raison, mais c'est le mariage des deux, l'harmonie des opposés, la vision et la raison, pour ne pas non plus tomber dans des dérives, des fois, de superstitions, non, qui peuvent exister. Mm-hmm. Ou encore de fantaisie, qui n'est pas la capacité de capter l'essence. L'imagination est une capacité de capter l'essence. Alors, c'est des choses que l'on développe davantage dans nos cours de philosophie, justement, et dans un sens concret, dans un sens pratique. Donc ici, une très belle toile, en fait, d'un chaman qui tient dans sa main, hein, la voie lactée, c'est le microcosme qui rend compte le macrocosme. Et juste ici, une prière apache. Puisse le soleil t'apporter chaque jour une nouvelle énergie. Puisse la lune, chaque nuit, te ressourcer pleinement. C'est la pleine lune ce soir, c'est presque la pleine lune. C'est presque la pleine lune. Elle est là. Nous sommes dans la nature. Même au cœur de la ville. Puisse la pluie te laver de tous les soucis. Puisse le vent t'insuffler de nouvelles forces. Puisses-tu marcher paisiblement à travers le monde et apprécier tous les jours sa beauté. La beauté des esprits de la forêt se manifeste dans tous les plans, dans des mondes invisibles, dans des plans invisibles aussi, dans les forêts. Il y a tous ces génies des plantes, avec lesquels les chamans discutaient, parlaient. Et ça, c'est dans toutes les cultures. Ils ont porté différents noms, farfadet, gnome, corrigan, vraiment différents noms, petits êtres. Il y en a une multitude, ces génies de la terre. Ils sont en relation avec la terre. Et il y en a une multitude, comme il y a une multitude d'arbres, comme il y a une multitude d'arbustes, de végétaux dans la forêt. Ils sont multiples. Alors, celui qui a des yeux, le chaman, pouvait établir un lien. Dans notre histoire plus contemporaine, on a le jardin de Findorm, par exemple, en Irlande, avec les farfadets. Ben, ce sont des personnes qui ont appris à une sensibilité à la nature et appris le langage de la nature et donc peuvent travailler avec des gnomes, avec des farfadets, des lutins. Bon, de quoi est-elle en train de parler? Et oui, et donc ils font pousser des légumes qui sont plus gros que nature, sans OGM, sans fertilisants et tout ça. Et parce que tout est vivant, tout a une âme. Et il y a des petits êtres qui habitent sur d'autres plans de réalité que le plan dense physique. Alors il y a le monde invisible, l'esprit du ciel, la dimension spirituelle, bien sûr. Cette dimension spirituelle, elle peut ouvrir le cœur à des dimensions invisibles à l'œil physique, mais qui pourtant sont bien réelles dans la manifestation, comme les ondes. Les ondes sont réelles, mais on ne les voit pas. Alors, donc on peut, c'est comme agrandir notre conscience. C'est une expérience d'élargissement de la conscience, en fait. On appellerait ça, dans un langage plus contemporain, expérience, bon, état modifié de conscience. Alors, il y a les génies de l'eau. Je vous les présente brièvement, juste pour qu'on s'imprègne un peu de toute cette sagesse qui est là dans l'histoire de notre humanité, qui fait partie des traditions dans les différents peuples, et que l'on peut s'ouvrir à une considération que tout a une âme, tout est vivant, qu'il y a des petits génies. Les gnomes, par exemple, transmettaient leurs connaissances aux chamans sur les propriétés des plantes, qui leur permettaient donc de savoir quelles plantes utiliser pour soigner. Là, j'utilise un langage français, là, mais parce que je ne connais pas les noms amérindiens, mais ça existe dans toutes les traditions. Et dans les eaux, bien sûr, on va avoir tous les esprits des eaux. Alors, on a cette très belle ici toile aussi, avec une facture très contemporaine de cette très belle image de l'amérindienne qui marche dans les eaux avec sa plume, en relation avec cet esprit des eaux. Et à côté, la déesse dont je vous ai parlé, la déesse inuite Setna, que l'on retrouve là, qui se trouve au fond de la mer et que le chaman va aller rencontrer pour coiffer les cheveux. On a des représentations inuites de sirènes. Alors c'est très intéressant, on pense que les sirènes appartiennent à une culture en particulier qui serait celle du Moyen-Âge ou Mais ce sont vraiment des génies de l'eau qu'on a retrouvés en Grèce ancienne. Vous savez, Ulysse et les sirènes, mais qu'on va retrouver aussi chez les alchimistes au Moyen-Âge, mais qu'on retrouve chez les autochtones également. Et on a quelques images, on n'a pas beaucoup de représentations, je dirais, autochtones d'Amérique du Nord et du Sud, des esprits de la nature qui habitent dans le monde manifesté. Là, je suis en train de parler du monde énergétique, du monde pranique. Ce n'est pas le monde céleste, mais c'est le monde énergétique. Donc, vous voyez, il y a toutes ces plans de la nature, toutes ces multitudes de cours d'eau comme des veines, tout un système sanguin de la Terre, tout ça, c'est vivant. Et il y a des génies qui s'occupent, par exemple, de la purification des eaux. Et donc, on va les représenter à travers les sculptures, en pierre de savon, par exemple. Ici, c'est une très belle représentation que l'on voit chez les Inuits. L'esprit du vent. On a tous ces élémentaux qui sculptent les nuages, qui transportent les vents. Et donc, la conscience du chaman qui peut rencontrer l'esprit du vent, son frère, le vent, pour balayer les plaines, pour balayer les forêts, ou encore apprivoiser la tempête. Donc, dans les traditions chamaniques, par exemple, il y a souvent cette tradition où le chaman, alors que la communauté est réunie autour du feu sacré, ou dans le tipi, ou dans la maison longue, donc avec le tambour, ou encore d'autres instruments, la flûte, par exemple. Alors que s'il y a une tempête, le chaman va sortir à l'extérieur et il va invectiver la tempête, c'est-à-dire qu'il va se confronter à l'élément et il va y avoir un combat, il va y avoir une bataille, parce que là l'élément se déchaîne. Alors comment peut-on calmer l'élément? Et il avait cette propriété, c'est un grand pouvoir. Voyez, on rencontre des forces extraordinaires qui ont pu être développées dans l'histoire de l'humanité, de ces êtres qui atteignent des états de conscience qui leur permettent de travailler avec les éléments, de calmer les éléments, comme par exemple l'esprit du vent. Et donc ici, une représentation plus contemporaine de ces génies du vent. Rien n'est mécanique, rien n'est, automatique. Tout est plein d'intelligence, tout est plein de vie, tout a une âme. Les élémentaux sont les âmes des éléments. Alors, on a pensé longtemps que c'était des histoires pour les enfants, mais le chaman, et dans toutes les traditions, que ce soit l'alchimiste qui travaillait avec les quatre éléments, terre, eau, air, feu, que ce soit le druide qui travaillait avec ces éléments aussi, que ce soit les chamans tibétains qui connaissaient les propriétés des minéraux, qui leur étaient aussi transmis par les génies de la terre. Donc, ceci est présent dans toutes les cultures. Et bien sûr, des élémentaux qu'on retrouve dans le feu sacré, le feu qui est le feu physique, bien sûr, qui rassemble. C'est le foyer autour duquel toute la communauté est rassemblée, autour duquel on va danser, autour duquel on va chanter, autour duquel on va aussi faire les offrandes à la vie, offrir, donner. Parce que l'humain n'est pas fait pour être un consommateur, comme ce à quoi on veut nous réduire souvent, mais il est fait pour être un acteur, quelqu'un qui participe à la vie, qui contribue à la création comme celle dans laquelle il prend place. Nous prenons place dans un univers de beauté. Nous prenons place dans un univers de justice, de bonté. La nature est très généreuse avec nous. Si on apprend à en connaître les lois, les rythmes, alors on pourra s'harmoniser avec elle. Ça commence par un premier pas, se rencontrer soi-même pour harmoniser les différentes forces qui existent à l'intérieur de nous et pouvoir célébrer la vie. Crazy Horse qui nous dit, alors voyez que lui, il n'a pas une plume, il n'a pas deux plumes. Alors j'ai beaucoup de chemin à faire, autrement dit, mais je pense qu'on en a tous beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, comme on a vu dès le départ de cette conférence, on a perdu ce qu'est l'esprit chamanique. L'esprit chamanique, c'est redécouvrir cette voie qui mène au cœur de soi, qui mène au cœur de l'être humain. Et donc là, apprendre à voir au-delà des apparences, apprendre à voir que la vie est beaucoup plus riche que ce à quoi on veut la réduire aujourd'hui. J'ai vu le monde caché derrière le monde. Crazy Horse, qui était un grand chaman. Je lui laisse la parole pour finir. Alors, merci beaucoup pour votre présence. On a débordé le temps, je suis désolée. Mais si vous avez des questions, on peut peut-être prendre quelques questions. Ceux qui peuvent rester.
Pardonnez mon français. Vous avez parlé d'un mariage entre selon gauche et droite, ou peut-être entre le monde réel et le monde invisible. Et mon question est, est-ce que le chaman doit être au-dehors de la société, ou est-ce qu'on peut intégrer ces deux mondes?
C'est ça. Alors, nous avons tous tout intérêt à ce que les sages soient dans la cité. Nous avons tout intérêt à ce que les sages soient dans la cité. Et en fait, ces deux mondes doivent se rencontrer. La nature intègre ces deux dimensions. C'est une vision réductrice qui sépare ces deux mondes. Mais ils sont toujours là, toujours en interpénétration. Ce n'est pas séparé, c'est toujours relié. Alors, bien sûr, comme je disais, la tradition chamanique, elle se perd aujourd'hui, mais existe encore des chamans, quelques-uns, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de sages dans l'humanité, mais il y en a encore quelques-uns. Et ils sont désolés, vous avez vu les paroles de ce chaman que j'ai présenté au tout début, ils sont désolés de voir l'état du monde actuel et la non-transmission de cette sagesse. Mais il y a des chamans, les chamans en Amazonie, par exemple, qui ont été interviewés par des individus qui de plus en plus commencent à s'intéresser au chamanisme et à reconnaître la valeur, la grande validité de toutes ces connaissances qui, comme je l'ai dit, ne sont... Chaman, c'est beaucoup plus large que ce à quoi on veut le réduire aussi. Et ils demandaient à ces peuples qui vivent dans des communautés en nature et tout ça, et ils disent... la population vous a déserté. La population, par exemple, du Brésil ne consulte plus les chamans. C'était une question. Et il a dit, le chaman a dit, alors c'est vrai, ils consultent, quand ils sont malades, ils consultent les médecins qui sortent des universités de Brasilia, de Rio de Janeiro, de São Paulo. Mais quand les médecins de Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro, malgré tout leur bagage universitaire et leurs études, ne trouvent pas la cause du mal, ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir. Mm-hmm. Donc, et on sait que aussi il y a des chamans qui habitent en ville. Oui. Mais par exemple, une école de philosophie comme ici, parce que encore une fois, je veux dire, le chaman n'est pas seulement celui qui est médecin, mais c'est celui qui a une connaissance des lois d'harmonie, par une connaissance du beau, du bien, du juste, de ce qui est. Il connaît l'être. C'est la quête de l'être. La quête de la vision, c'est la quête de l'être. Et une école de philosophie comme Nouvelle Acropole est un espace de réhabilitation de cette quête de l'être humain. Et bien sûr, c'est un long chemin. 20 ans. 20 ans d'ouverture du cœur. C'est un long chemin. Mais il faut commencer quelque part, il faut faire ses premiers pas. Et puis donc, l'école ici est là pour ça. Oui. Et aussi, je voudrais raconter une histoire. Je vais raconter une histoire un peu étrange, mais c'est Black Elk que je vous ai présenté au tout début. Vous vous souvenez, celui qui a dit « Avant, on était instruits, on savait parler aux animaux, on comprenait le langage des animaux. » Eh bien, il vit aux États-Unis. dans la tradition qu'il a développée, il vivait aux États-Unis. Et à un moment donné, il y avait un enfant qui était hospitalisé depuis des années. Et l'enfant avait cessé de parler, de marcher, tu vois, il était nourri par intraveineuse, il était dans le lit à l'hôpital. Et il y avait à cette époque-là un centre de recherche qui faisait justement des recherches sur le chamanisme, sur l'esprit chamanique. Et donc, il n'y avait rien à faire avec cet enfant, avec tous les traitements qu'il avait pu recevoir pendant des années. Il restait toujours dans un même état végétatif. Alors, ils sont allés chercher le chaman et ils ont demandé l'autorisation à l'hôpital. Et ils ont eu exceptionnellement l'autorisation de l'hôpital, qui a donné à ces personnes qui ont fait l'opération chamanique deux heures de temps. Il y avait seulement 2 heures, c'était comme limité. Et donc là, ils sont arrivés dans l'hôpital et ils ont fait les chants. Ils ont fait une opération, ils ont qualifié l'espace avec les tambours et tout ça, une qualification de l'espace. Pierre va parler davantage de ça dans la deuxième conférence. Mais... Et donc, le chaman a fait ce voyage pour voir qu'est-ce qui rendait cet enfant paralysé, tu vois, pris. Il était pris dans quelque chose. Et donc, il y avait une toile autour de son cerveau. Il a vu une toile, comme une toile d'araignée autour de son cerveau, dans l'invisible. Vous voyez, dans des niveaux plus subtils de réalité, pranique. Bon. Alors, il a convoqué le dieu, parce que la toile est rattachée à l'araignée. Donc, il a fait le chant de l'araignée. Donc, c'est une connaissance que ces chamans avaient. Il a fait le chant de l'araignée et il a convoqué le dieu araignée. Et c'est le dieu araignée qui lui a dit « Oui, il ne peut pas parler parce qu'une toile l'enferme. Je vais détisser. » Parce que c'était son pouvoir à ce dieu araignée de détisser la toile. Il a détissé la toile. Et il a dit à cet esprit araignée, il a dit au chaman, cet enfant va pouvoir nourrissez-le de façon normale, il va pouvoir manger, il va pouvoir boire, il va falloir qu'il vive de la réhabilitation, mais il va être guéri. Et après l'opération, l'enfant qui ne s'était pas levé, qui était dans un état végétatif, s'est levé. Il a pu manger des substances solides, boire. Et puis, oui, il y a eu la rééducation au niveau du langage. L'enfant a été guéri. Donc, c'est une histoire. Mais vous savez, le médecin du Dalai Lama, par exemple, dont je vous ai parlé, de ce chaman aussi au Tibet, quand est arrivé l'accident de Tchernobyl, je vous ai parlé de ce livre, Le Palais des Arcs-en-Ciel, eh bien, il est allé à Tchernobyl. Et les personnes qui étaient victimes des radiations, qui étaient pour mourir, malade des radiations. Et la médecine actuelle n'a pas pu guérir ces gens-là. où il y a eu très peu de succès dans les traitements qui ont été par la suite appliqués. Mais ce médecin a guéri plusieurs personnes. Sauf que par la suite, la médecine, je dirais, conventionnelle, et non pas traditionnelle, il y a une grande différence entre les deux, mais une médecine plus matérialiste, basée sur une approche plus rationnelle, elle est bonne, cette médecine, elle est efficace dans bien des cas, mais elle ne peut pas tenir compte de la globalité de l'être humain, c'est ça le problème. Il faut travailler avec les deux, mais la médecine, alors, n'a pas permis que le médecin tibétain du Dalai Lama reste davantage à Tchernobyl, lui a demandé de partir. Parce que ça mettait en cause la médecine, voyez-vous. C'est ça. Alors, ce n'est pas tous les médecins qui ont une approche, qui développent leur connaissance dans l'approche conventionnelle, comme je dis, qui est très valide, qui est très... Je voudrais pas qu'on pense que je suis en train de condamner... Pas du tout, au contraire. Mais il faut pouvoir harmoniser, j'en profite pour votre question qui était tellement bonne, il faut pouvoir harmoniser la dimension de l'imagination et de la raison, la capacité de l'intuition et de la raison. Sinon, on tombe dans des déséquilibres d'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup de votre attention et patience.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.